De vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Un numéro qui va nous plonger aujourd'hui dans l'histoire de la psychanalyse, puisque nous allons parler d'un des disciples de Freud avec lequel il a entretenu des relations tumultueuses, une sorte de relation père-fils. Ce disciple préféré s'appelait Sandor Ferenczi. Leur correspondance, plus de 1000 lettres, demeure indispensable pour les comprendre et pour saisir les débuts de la psychanalyse. Benoît Peters est notre invité, il vient d'écrire « Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse », un livre publié chez Flammarion qu'il définit ainsi. C'est le portrait d'un perdant magnifique et d'un analyste visionnaire, précurseur des réflexions les plus contemporaines sur les maltraitances enfantines, la possibilité de la résilience, la théorie du care et les nouvelles voies de la thérapie. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idées que vous pouvez aussi télécharger sur le site de la radio www.rfi.fr ou sur votre plateforme de recherche préférée afin de l'écouter en balado diffusion. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Je suis ravi de vous retrouver dans ce studio quelques années après une émission que nous avions faite sur Jacques Derrida et également sur RG, il me semble, depuis. Alors, vous êtes essayiste, scénariste de bande dessinée de la célèbre série Les Cités Obscures. Vous êtes également donc biographe de Jacques Derrida, de Paul Valéry et d'Hergé. Quel curieux personnage que ce personnage Sandor Ferenczi, à la fois psychanalyste et quasiment fils de Freud.
Oui, ça a été le disciple ébloui de Freud pendant de longues années. C'est quelqu'un qui a mis du temps à s'émanciper, à trouver sa propre voie. Et à ce moment-là, les choses se sont passées un petit peu moins bien avec Freud. C'est quelqu'un aussi qui est mort prématurément, puisque Ferenczi était né en 1873. C'est un Hongrois, il est né à Budapest et il est mort en 1933, il y a d'ailleurs quelque chose de très émouvant,
donc c'est qu'au moment
où
Freud,
il est, avant bien Freud, avant Freud, ouais. Et au moment où il est rongé par la maladie, en 33, peu après l'accession d'Hitler au pouvoir, il écrit à Freud en lui disant « Vous devez quitter Vienne, vous devriez partir en Angleterre », conseil que Freud à l'époque n'entend pas, n'écoute pas et qu'il n'exécutera que 5 ans plus tard au moment où la situation sera devenue intolérable. Donc ça vous dit que même dans la quasi-brouille de la faim, même rongé par la maladie à 59 ans, Ferenczi se soucie encore de Freud et a une vision extrêmement éclairée de la situation politique du moment.
La relation entre les deux hommes va être au cœur de cette émission, mais c'est aussi une page de l'histoire de la psychanalyse que vous nous proposez.
Bien sûr. En fait, Freud n'avait pas l'âge d'être le père de Ferenczi, puisqu'il était né, lui, en 1856. Et donc, quand Ferenczi le rencontre pour la première fois, en 1908, c'est un homme d'un peu plus de 50 ans. Mais il se trouve que Ferenczi a un aspect encore assez juvénile, et Freud a déjà un peu un air de pater familias, de patriarche, avec sa barbe qui commence à blanchir. Et la psychanalyse, à ce moment-là, même si Freud à peine passé la cinquantaine, la psychanalyse n'en est qu'à ses débuts. Freud n'a pas été un inventeur précoce, il est parti dans plusieurs directions, et c'est finalement au tournant des 19e et 20e siècles qu'il a publié son premier livre majeur, L'interprétation des rêves. Et alors les premiers disciples arrivent dans les années qui suivent, 1902, 1904, 1906, il y a notamment le célèbre Jung, Carl Gustav Jung, et puis Ferenczi arrive. Et là, ce qui va se passer, c'est pas seulement une relation professionnelle, c'est une relation de véritable amitié. Il y a entre eux une proximité familiale, ils vont voyager ensemble à plusieurs reprises. Et donc le lien qu'il y a est un lien unique, et la correspondance que vous avez évoquée est une correspondance tout à fait particulière parmi les correspondances de Freud, grand épistolier, auteur de magnifiques lettres, même sur le plan littéraire. Mais c'est une correspondance très particulière parce que c'est la plus intime, c'est la plus amicale, c'est la plus filiale, pourrait-on dire.
Alors, parlons d'abord de Freud pour bien montrer l'importance de cette relation et de la complémentarité qu'il y aura ensuite entre les deux médecins, hein, deux psychanalystes. On peut dire que Freud est l'inventeur de la psychanalyse. En tout cas, il en a été aussi le théoricien principal.
Oui, bien sûr, il y a des prédécesseurs, il y a des échos, il y a des gens avec lesquels il a travaillé, mais on peut dire qu'il y a eu une illumination chez Freud dans la fin du 19e siècle, d'abord lors de son travail sur l'hystérie avec Joseph Breuer. L'hystérie est une des maladies mythiques de la fin du 19e
et donc son livre célèbre, l'étude sur l'hystérie,
oui,
hein,
c'est
à la
ça,
fin du 19e.
En collaboration avec quelqu'un qui est son mentor à l'époque, Joseph Breuer, qui va être un peu effrayé quand il découvre l'orientation des interprétations de Freud vers la sexualité. Breuer ne veut pas le suivre sur ce terrain et les deux hommes vont se séparer. Dans la même époque, il y a une amitié extraordinaire et qui est fondamentale pour comprendre le lien ultérieur entre Freud et Ferenczi, c'est l'amitié de Freud avec un de ses contemporains, Wilhelm Fliess, qui est comme lui médecin, avec une autre spécialité, et une amitié se noue quand Freud est encore dans la trentaine, et pendant près de 10 ans, les deux hommes vont correspondre quotidiennement, et au fond, Fliess, qui aujourd'hui a un peu la réputation d'un charlatan, notamment à cause de ses théories sur le nez et le lien entre le nez, les organes sexuels, entre système de nombres qui expliquerait les périodes, qui expliquerait chez l'homme comme chez la femme toutes sortes d'événements psychiques et biologiques. Eh bien, Freud est un peu sous l'emprise de Fliess, dans l'admiration éperdue de Fliess. C'est le moment où, tandis que Fliess développe des théories qui nous paraissent aujourd'hui extravagantes, Freud commence à réfléchir sur le rêve, croit découvrir ou découvre le secret du rêve. Ils échangent des communications scientifiques, ils se voient régulièrement. Et au fond, cette amitié qui va être brisée au moment où Freud s'émancipe et comprend que l'autre part dans des voies un peu irrationnelles et déraisonnables, une certaine forme d'amitié, une certaine forme de proximité dans l'égalité se brise. Et au fond, peut-être que le malentendu fondamental entre Freud et Ferenczi, c'est que Ferenczi rêve de retrouver avec Freud une communauté d'esprit d'égal à égal, alors que Freud, malgré son amitié pour Ferenczi et son estime pour lui, ne se départira jamais d'une forme de réserve. Il ne s'ouvrira jamais tout entier. Il le reconnaîtra d'ailleurs, et il reconnaîtra le caractère un peu traumatique de la relation avec Fliess, que j'évoque donc dans un des chapitres. Le livre n'est pas entièrement chronologique, il y a un flashback à un moment, parce que quand il arrive une crise, une première crise entre Freud et Ferenczi, elle tourne autour du souvenir de Fliess. C'est pendant un voyage que les deux hommes font ensemble en Sicile. Alors il y a l'archéologie qui passionne Freud, mais il y a peut-être aussi l'archéologie de sa propre pensée, et Ferenczi, avec une intuition remarquable, dit qu'il s'agit peut-être d'une remémoration de l'affaire Fliess, qui alors, sera un secret de Freud.
Continuons à faire quelques rappels à propos de Freud, célèbre pour son travail sur l'inconscient. Hein, l'inconscient, le subconscient.
Bien sûr, Freud, après le rêve, analyse le mot d'esprit, analyse aussi ce qu'il va appeler la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est-à-dire notamment les lapsus, les actes manqués, réfléchit sur la sexualité et la sexualité infantile, les 3 essais sur la théorie sexuelle. Beaucoup de ces textes vont être d'ailleurs traduits en hongrois par Ferenczi, qui, quand il découvre Freud, s'emploie à faire connaître Freud au-delà de l'Autriche. Nous savons que nous nous situons à ce moment-là dans l'Empire austro-hongrois, qui est aussi celui de Kafka à la même époque, qui est celui de Klimt, d'Egon Schiele, enfin de toute cette brillante culture du début du XXe siècle. Mais le hongrois est une autre langue, une langue même extrêmement différente,
mystérieuse,
et mystérieuse. Et donc, Ferenczi va s'employer non seulement à faire connaître les premiers ouvrages de Freud aux médecins, mais pour beaucoup, à les traduire. Et sa pensée se développe, au départ, on pourrait dire, dans les marges et le prolongement de Freud. C'est une époque où on est donc là, je dirais, dans les années 1900 à 1914, c'est une époque où la psychanalyse est montante, de nouveaux disciples arrivent d'un peu partout, la psychanalyse commence à se développer comme une institution, et Ferenczi y jouera un grand rôle, mais c'est aussi une période extrêmement productive pour Freud. Après les débuts un peu laborieux, un peu difficiles, tout d'un coup, il se sent en pleine possession de ses moyens et publie à un rythme très régulier, tout en recevant des patients toute la journée et tout en écrivant le soir des lettres nombreuses et toutes différentes à ses disciples, certains pour les gronder, parce que pour notamment les disciples viennois, ils ne les aiment pas trop, et d'autre côté, pour conquérir de nouveaux territoires. Freud et Ferenczi vont, par exemple, effectuer ensemble, avec Jung, en 1909, un voyage aux États-Unis qui sera très important.
Alors, Freud, l'inconscient, le rêve, la sexualité,
le divan, la technique de la psychanalyse.
Et j'y venais, la cure. Et là, c'est très important de préciser cela, car il va y avoir une divergence, on va le voir tout à l'heure, entre lui et Ferenczi.
Alors, la cure se met au point, peu à peu. Au départ, Freud a eu recours à l'hypnose, qui était une technique très en vogue. Et puis, eh bien, se met en place ce qu'on connaît encore comme le cadre de la psychanalyse, avec le divan, le fait qu'il n'y ait pas de contact visuel entre celui que Ferenczi va nommer l'analysant, c'est un terme qui sera repris plus tard, et l'analyste, donc pas de contact visuel, une parole fondée sur l'association libre, donc on raconte des rêves, mais aussi des enchaînements d'idées, des associations d'idées. Le psychanalyste intervient tantôt assez fortement, Freud était un petit peu bavard, tantôt peu. D'autres analystes pensent qu'il ne faut pas interrompre le flux de paroles trop souvent, qu'il ne faut pas se hâter d'interpréter. Et ce qui est très intéressant pour nous, parce qu'il va y avoir dans la vie de Ferenczi, et d'ailleurs d'un certain nombre d'autres analystes, une sorte de confusion entre la vie privée et le travail thérapeutique. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces règles, elles se font peu à peu, elles s'inventent année après année, patient après patient. Et Freud lui-même reconnaîtra régulièrement qu'il y a des erreurs, des ajustements à faire. Prenons un exemple tout simple, mais Freud, évidemment, n'avait pas été analysé, puisqu'il n'y avait pas d'autres analystes. On peut considérer par certains côtés que la correspondance avec Fliss était une sorte d'auto-analyse ou d'analyse par lettre interposée. Mais même Ferenczi, qui est au départ médecin, formé à la neurologie, à la psychiatrie, n'est pas analysé et commence à analyser. Et c'est petit à petit qu'il va se dire, mais est-ce que... Et les préoccupations thérapeutiques vont être fondamentales chez Ferenczi, peut-être qu'il se soit encore plus médecin que Freud, encore plus soignant, c'est vraiment sa passion, qui va se dire, mais l'analyste lui-même a un inconscient, et s'il n'a pas été analysé, cet inconscient peut agir de manière parasite et perturber l'analyse. Donc on va dans un premier temps mettre au point le concept de transfert, c'est-à-dire les sentiments, les réactions, les attitudes de l'analysant par rapport à l'analyste, hein, par exemple de projeter les figures parentales sur l'analyste, des choses qui sont bien entrées dans la théorie, mais on commence à théoriser le contre-transfert, qui est un concept un peu plus complexe mais très important à comprendre, qui est que l'analyste lui-même n'est pas neutre et que face à tel patient, telle patiente, il peut éprouver des sentiments positifs, favorables, un contre-transfert positif, donc un élan vers cette, ou un contre-transfert négatif, une forme d'antipathie ou de rejet, qui, si elle n'est pas élaborée, si elle n'est pas analysée, pourrait tout à fait perturber la cure. Et donc, ce qui est très très important à comprendre, pour ne pas avoir de jugement hâtif en lisant mon livre, où il se passe quand même des choses un peu extravagantes, c'est de dire, ben, les règles n'étaient pas un corpus prédéfini que tout analyste avait étudié, il n'avait pas son petit manuel. Freud commençait à publier de tout premiers articles qui seront ensuite rassemblés, qui vont être complétés par les expériences d'autres analystes.
Et c'est bien pour cela, Benoît Peters, que je voulais que nous fassions ce rappel avant de parler de cette relation entre Sándor Ferenczi et Sigmund Freud. Où en est Ferenczi quand il rencontre la première fois Freud en 1908? Où en est-il dans ses travaux, dans ses études?
Alors, Ferenczi a 34 ans au moment de la première rencontre. Il a d'abord, il est au milieu d'une fratrie de 11 enfants. Il a eu une enfance assez difficile. Il a perdu son père à l'âge de 15 ans. Et ce trou est très important. Sa mère, qui a repris les affaires, qui a la librairie que dirigeait le père, petite société d'imprimerie, d'édition, la mère n'a pas eu beaucoup de temps pour s'occuper des enfants. Il a souffert d'une sorte de manque de tendresse qu'il cherchera à réparer. Donc, on pourrait dire une trou du côté de la mère comme du côté du père. Il a fait ses études de médecine à Vienne, parce qu'à Budapest, ce n'était pas considéré comme très sérieux. Il revient à Vienne, travaille beaucoup en médecine hospitalière. Il va travailler vraiment avec les indigents, les pauvres, les prostituées ou les maladies vénériennes qui sont si développées. Donc, il n'est pas strictement dans le travail psychique. Au début, il gardera toujours une sensibilité sociale très forte. C'est quelqu'un qui vit avec peu d'argent et qui se soucie assez peu de se faire payer. Et puis, il appartient aussi, par sa curiosité, son ouverture d'esprit, à une société brillante qu'il y a à Budapest à cette époque. Budapest est la deuxième capitale de l'Empire austro-hongrois. La Hongrie a une forme d'autonomie, une forme de nationalisme. Et il s'y passe toutes sortes de choses. Il y a par exemple le futur grand théoricien marxiste Georg Lukács, qui est important, Béla Balázs, qui sera un théoricien du cinéma, et encore plus célèbre, Béla Bartók, musicien et musicologue qui recueille les traditions musicales hongroises. Tous ces gens se retrouvent dans les cafés et les hôtels de Budapest et échangent ensemble. Et Ferenczi éblouit tout le monde par sa curiosité, son ouverture d'esprit. Ce n'est pas simplement un médecin, c'est vraiment un personnage ouvert et charismatique. Et il est en position relativement brillante jusqu'au moment de sa rencontre avec Freud, où après la lecture et relecture des premiers écrits, il va à Vienne, il rencontre Freud, et à partir de ce moment-là, il devient pour plusieurs années un propagateur de la psychanalyse, un propagateur enthousiaste, et il épouse les combats de Freud, y compris pour lutter contre les disciples dissidents.
Avec une admiration totale pour Freud.
Totale. Il faut dire quand même que Freud, quel que soit le jugement qu'on peut porter, Freud est un personnage extrêmement imposant, brillant. Il y a par exemple chez Freud quelque chose qu'on sous-estime quelquefois, c'est l'étendue de sa culture. C'est un homme qui maîtrise le latin et le grec admirablement. Sa passion pour l'archéologie, sa connaissance de la littérature classique, Goethe, Schiller, Shakespeare, pour lequel il a une passion, mais aussi l'humour de Freud. On voit parfois Freud comme une figure un peu sévère, le Freud tardif, il faut le dire, aussi rongé par la maladie, etc., et les soucis. Mais Freud, c'est une intelligence absolument éblouissante, c'est une aisance en plusieurs langues, et donc Ferenczi trouve là une figure paternelle idéale et une figure intellectuelle de référence. C'est la chance de sa vie, et je pense que c'est admirable aussi de la part de Ferenczi d'avoir reconnu, dans un moment où ce n'était pas si simple, la grandeur de Freud.
Alors vous écrivez, Benoît Peters, s'il existe entre les deux hommes une différence fondamentale, elle va se dessiner, se creuser au fil des années. Là où Freud croit à la séparation des registres entre vie publique et vie privée, science et affectivité, Sandor refuse tous les cloisonnements, sa volonté de soigner ne connaît bientôt plus de limites. À force de distance, la position de Freud peut tendre à l'inhumain, à force d'exigence et de doute, celle de Ferenczi va le conduire à l'invivable. On va revenir sur cette évolution. Quand ils se rencontrent, Ferenczi et Freud, ils sont sur la même longueur d'onde, pardonnez-moi l'expression.
Oui, c'est-à-dire que Ferenczi a l'impression qu'il a beaucoup à apprendre, parce que la première fois qu'il avait eu entre les mains l'interprétation des rêves de Freud, il n'a pas saisi l'intérêt du livre, il n'arrive pas à comprendre comment il a pu passer à côté, et donc il est converti. Mais ce n'est pas non plus un disciple béat. Très vite, il introduit de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Il a évidemment tout son réseau de contacts en Hongrie auquel Freud est très sensible, puisqu'il ne veut pas que la psychanalyse reste une affaire strictement autrichienne. Par contre, il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué et qui est quand même très important, c'est qu'il partage, comme la plupart des disciples de Freud de l'époque, la judéité. Ferenczi est d'une famille juive originaire de Pologne, mais installée en Hongrie depuis longtemps. Freud, bien sûr, est juif, et la plupart des premiers disciples sont juifs. C'est d'ailleurs une question qui va revenir très souvent entre eux, face à des montées antisémites dès cette époque-là. C'est, est-ce que un goy, est-ce que un non-juif est capable de devenir sincèrement un disciple de Freud? Évidemment, l'affaire Jung, qui va beaucoup les occuper dans les premières années, l'affaire Jung va être essentielle, puisque Jung, qui est un Suisse alémanique, n'est pas juif, c'est le seul gentil de l'affaire, ce qui séduit beaucoup Freud au début, parce que Freud a peur que la psychanalyse soit restreinte, soit enfermée dans le monde juif. Donc il accueille d'abord Jung avec beaucoup de générosité, et puis face à ce qu'il va considérer, ce que Ferenczi va considérer comme les dérives de Jung, notamment peut-être un ego un peu surdimensionné, mais une forme de rejet de l'importance de la sexualité, enfin différentes remises en cause, ils vont se dire, est-ce qu'on arrive vraiment à s'entendre dans une société psychanalytique et à échanger librement avec des goy. Et la question se reposera avec celui qui deviendra l'ennemi juré de Ferenczi, Ernest Jones, un gallois, grande figure de la psychanalyse en Angleterre, puis dans le monde anglo-saxon. Et Jones aura de temps en temps des accès antisémites dans des disputes. Hein, notamment, on se dispute sur un concept, et puis il dit « oh oui, ça c'est bien d'un juif », etc. Ce qui conduira évidemment les uns et les autres à se méfier un peu de lui.
Alors, en plus de leur relation d'amitié, les deux hommes vont pratiquer la psychanalyse et travailler chacun de leur côté. Et Ferenczi va innover, va trouver de nouvelles pistes en matière de psychanalyse. Vous parlez par exemple de l'introjection. De quoi s'agit-il exactement, de cette théorie?
Mais écoutez, sans entrer dans la technicité des concepts psychanalytiques, il peut dire que l'introjection, c'est le contraire de la projection. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos affects vers l'extérieur ou au contraire les intérioriser, les assimiler, éventuellement de façon très négative. Et donc Freud se saisit de ce concept introduit par Ferenczi dans un de ses premiers articles et se l'approprie aussitôt. De la même façon, Freud, qui s'est intéressé beaucoup au lapsus, va être tout à fait fasciné par les réflexions de Ferenczi sur les devinettes. Peut sembler des petits objets futiles, mais il voit le lien entre la devinette et l'inconscient, entre celui qui pose une devinette et l'attitude quelque peu sadique qu'elle peut révéler, de faire vaciller l'autre, de le mettre en position. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout d'échange à sens unique. Et ce qui va le plus rapidement fasciner Freud, c'est les qualités thérapeutiques de Ferenczi. Freud n'a pas toujours réussi avec ses patients. Au fond, il dira, et plusieurs de ses patients célèbres retournent chez d'autres analystes, après refont une tranche d'analyse alors même que leur cas a été publié, et Freud va se dire à un moment, au fond, ma vraie vocation était celle d'être un penseur, un philosophe, un théoricien, et je le soin au sens quotidien, qui nous paraît, nous, être le cœur de la psychanalyse, lui sert à deux choses. D'abord, à affiner son appareil théorique, c'est-à-dire que les patients lui apportent des exemples, des situations qu'il va analyser, et puis aussi à le faire vivre, et à faire vivre sa nombreuse famille, alors que Ferenczi, lui, qui vit seul, qui a peu de besoins, n'a pas ce rapport nourricier à la pratique thérapeutique. La pratique thérapeutique est vraiment chez lui une vocation. Il est médecin dans l'âme, il mettra longtemps à devenir écrivain et le philosophe, le penseur que Lou Andreas Salomé notamment voyait en lui. Or, plus Freud s'éloigne du quotidien de la pratique analytique, plus Ferenczi s'y adonne avec passion, plus il pense que c'est le cœur de la psychanalyse, et moins il met de limites. On parlait tout à l'heure du risque de l'invivable, c'est vraiment quelque chose de fondamental, travailler le dimanche, emmener ses patients en vacances, etc.
Parce que là, il nous faut parler absolument de cette séparation. Je citais une de vos phrases tout à l'heure, séparation entre vie privée et vie de médecin. Et là, la vie des deux hommes est faite aussi de la relation de Ferenczi avec sa femme, enfin celle qui va devenir sa femme, et la fille.
Alors c'est une affaire très compliquée.
Les deux filles d'ailleurs de
il
de
y a
femme.
Eu il y a eu plusieurs cas dans les débuts de la psychanalyse de on peut dire d'un broglio amoureux, de ce que j'appelle à un moment la confusion des divans, c'est la confusion des sentiments.
Cette histoire est extraordinaire
et c'est vrai qu'elle donne peut-être à mon livre un aspect aussi un peu romanesque, parce que j'ai voulu entrer dans tous les détails dans la mesure où il ne s'agit pas de quelque chose d'anecdotique, c'est directement lié à l'œuvre et à la pensée de Ferenczi.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Que se passe-t-il ? Eh bien, Ferenczi, qui est célibataire, entretient depuis assez longtemps une liaison avec une femme mariée qui s'appelle Gisela, qui a 8 ans de plus que lui.
Oui.
Voilà, elle est originaire de la même ville, la même petite ville hongroise que lui, il la connaît depuis très très longtemps, c'est une liaison secrète et intermittente. Au départ, il en parle d'ailleurs de manière cryptée dans les lettres à Freud. Il parle de Madame Isolde, puis de Madame G. Bon, Freud va rencontrer cette femme qui s'est passionnée pour la psychanalyse, qui lit les ouvrages de Freud, et elle est un peu plus jeune que Freud, si elle est un peu plus âgée que Ferenczi. Et donc, Freud la prend immédiatement en sympathie, ce qui est très très important. Ça devient presque une amie ou une disciple. Il se trouve que, donc, elle n'a pas encore divorcé, n'a pas pu épouser Ferenczi, et à un moment, la fille, l'une des filles de Gisela, qui s'appelle Elma, qui est une jeune femme d'environ 20 ans, que Ferenczi n'a en aucune façon élevé, hein, c'est vraiment, ils n'ont jamais vécu ensemble, a des difficultés de jeune femme, des difficultés sentimentales, et la maman, Gisela, propose à Sándor de prendre sa fille en analyse. Et au cours de cette analyse, très vite, des sentiments amoureux se déclarent de part et d'autre. À ce moment-là, Freud, persévère, dit à Ferenczi, interrompez immédiatement l'analyse et envoyez-moi Elma à Vienne, c'est moi qui vais reprendre l'analyse. Ce qui n'est pas totalement absurde de dire, il faut une personne qui soit moins impliquée. Cette relation amoureuse est-elle ce que Freud appelle un amour de transfert, c'est-à-dire un amour provoqué par la situation, ou s'agit-il d'un amour sincère? Le premier diagnostic que pose Freud sur Elma est extrêmement dur. Il la croit atteinte de démence précoce, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui de schizophrénie. Ça refroidit, évidemment. Ferenczi, me serais-je trompé? N'aurais-je pas vu? Etc. Freud va revenir, après le début de l'analyse, va revenir assez vite et dire non, c'est une jeune femme intelligente, sensible. Il ne dit pas je me suis trompé, mais enfin, grosso modo, il atténue le diagnostic jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de diagnostic de démence précoce. Ni précoce, ni tardif. Mais d'une certaine façon, le verre est dans le fruit, le mal est fait, quelque chose s'est défait. La jeune fille doute, Ferenczi doute, elle revient, leur amour se renoue. Gisela a une attitude étrange qui peut sembler à la fois très généreuse et peut-être en même temps problématique. La mère, elle dit à Sándor, non mais je vais m'effacer, je me retire, épouse. Ma fille, elle dit à sa fille, épouse Sándor, vous pourrez avoir des enfants ensemble, moi je suis trop âgée, et Sándor rêve tellement d'avoir des enfants, je vais me retirer, je resterai votre amie. Et elle insiste, alors que Freud pousse dans l'autre sens, donc il y a un quatuor qui se met en place, et un jeu d'hésitation qui va durer pendant des années et des années. Où Freud va sortir de la réserve qui aurait peut-être dû être la sienne, mais peut-être mélange-t-il son rôle d'ami et son rôle d'analyste, il va pousser par toutes sortes de manières, directes ou indirectes, secrètes ou visibles, Sándor à épouser la mère, à épouser Gisela. Or, il en sortira un mariage malheureux pour eux, relativement malheureux, une des frustrations. Il en sortira un mariage rapidement arrangé pour la jeune Elma, qui sera un mariage catastrophique, qui va se dissoudre très très vite. Elle a perdu l'amour de sa vie. Et donc nous avons, à travers les lettres, à travers les indiscrétions, les passages de l'un à l'autre, toute cette histoire qui est tout à fait extraordinaire, qui va amener Ferenczi à venir lui-même sur le divan de Freud, mais la guerre va interrompre ce début d'analyse. Et finalement, c'est quelque chose qu'ils traîneront toute leur vie. Et qu'Elma, la jeune fiancée, va aussi traîner toute sa vie, puisqu'au fond, séparée de son mari, elle restera fidèle au souvenir de Sándor et sera extrêmement généreuse par rapport à lui tout à la fin de sa vie, bien après la mort.
Dans cette affaire où psychanalyse et vie privée se mélangent, tout le monde sort malheureux. En
fait. Tout le monde sort malheureux. Et là, je ne le dis pas aussi explicitement dans le livre, parce qu'il ne m'appartient pas de poser de jugement, mais on peut dire quand même, en prenant un petit peu de recul, que le rôle que Freud a joué n'a pas été très très habile. D'abord, cette erreur de diagnostic, dès le début, un diagnostic posé en une séance est extrêmement brutal. Et puis, cette manière d'influencer son disciple. On peut se demander à un certain moment, et certaines lettres de Freud tendent à se le demander, si au fond, un amour-passion, un mariage d'amour, ne faisait pas craindre à Freud une diminution de leur amitié, et peut-être une diminution de l'engagement intellectuel de Ferenczi. Que Ferenczi, devenu père de famille, mari et pris, aurait peut-être... Bon, mais raconter l'histoire au conditionnel est très difficile. Je me suis contenté de la raconter au présent, c'est-à-dire telle qu'ils l'ont vécue dans ces hésitations. Et il va y avoir chez tous, finalement, mais surtout chez Sandor Ferenczi et chez Elma, mais probablement aussi chez Gisela, une forme de tristesse qui les habitera dès ce moment-là.
Ces interférences entre amitié, amour, liens familiaux et relations professionnelles qui nous apparaissent aujourd'hui comme de grossières transgressions thérapeutiques n'étaient pas perçues comme telles à l'époque, écrivez-vous Benoît Peeters, mais c'est vrai que on ne peut être que surpris, et c'est moins qu'on puisse dire par cette histoire.
Oui, qui n'est pas unique, c'est la plus extraordinaire à mon avis de ces histoires, de ces imbroglios, de cette confusion des divans et des sentiments. Mais l'histoire de Sabina Spielrein est aujourd'hui bien connue, et Sabina Spielrein était une des patientes de Jung. Jung est tombé éperdument amoureux de cette jeune femme dite hystérique. Il y a eu un film de Cronenberg qui s'appelle Dangerous Method qui a relaté cette histoire. Et je pense que l'histoire de Ferenczi entre la mère et la fille, entre Gisela et Elma, non seulement transformera sa pratique psychanalytique, mais est en soi une histoire absolument hors du commun. On n'est pas, j'insiste là-dessus, on n'est pas dans l'anecdote.
Non, ça aide à comprendre.
On est vraiment dans quelque chose qui va le construire, qui va construire aussi son attitude thérapeutique, fondée sur ce qu'il appelle à l'époque le tact, mais qui est pour nous l'empathie, et qui est loin de ce que Freud théorise dans la même période comme la neutralité bienveillante.
Alors, avec le temps, Benoît Peeters, avec les années, les relations entre les deux hommes vont se refroidir, il va y avoir comme une distance.
Alors, il y a plusieurs éléments qui jouent. D'abord, Freud a toujours le désir d'avoir autour de lui des gens brillants qui continuent sa théorie et la prolongent, mais en même temps, quand ils prennent une forme d'autonomie intellectuelle, il a du mal à le vivre. C'est-à-dire qu'il leur dit « soyez libres », inventer, créer, mais rester dans le cadre. Et ce problème se posera avec plusieurs de ses disciples, et notamment avec Otto Rank, qui a écrit Le traumatisme de la naissance, qui était un proche de Ferenczi aussi. Et là, Freud dit non, c'est une dissidence. Et puis quand Ferenczi commence à prendre son autonomie, Freud très vite dit danger. Et c'est surtout sur des questions essentiel que les divergences vont se faire. Et là, sur une question qui est très actuelle et très importante et qui est probablement une des choses qui m'a poussé à écrire ce livre ou l'a rendu encore plus nécessaire pour moi au moment où j'y travaillais. C'est la question des abus sexuels, des traumatismes infantiles.
Qui ont toujours intéressé Ferenczi. Hein.
Qui ont toujours intéressé Ferenczi et qui avaient beaucoup intéressé Freud. Au moment où la psychanalyse était en train de se construire, et notamment dans les lettres à Wilhelm Fliess dont on a parlé, Freud entend des patients et surtout des patientes relater sur le divan des abus dont elles ont été victimes dans leur petite enfance et souvent au sein de la famille, souvent des abus de type incestueux. Au début, il les croit. Et puis, face à la fréquence des cas et à l'ébranlement que ça créerait de la bonne société viennoise où se recrutent ces premières patientes, il se dit non. Ce n'est pas possible. Il y a trop de cas. Et donc, ce sont des fantasmes à entendre comme tels. Et peut-être parfois dans ces fantasmes se glissent-ils chez certaines des éléments vrais. Et donc, il va dire à Fliess, dans des lettres célèbres de 1897, « J'ai renoncé à mes neuroticas, j'ai renoncé à cette explication que je croyais avoir trouvée. » Il se persuade même que beaucoup de ces patientes mentent. Ce qui est assez incroyable. Ferenczi, lui, et d'abord dans l'idée qu'il faut écouter. Écouter sans juger et même sans se prononcer sur le degré de réalité. Mais petit à petit, avec certains cas graves, il se persuade de plus en plus que les abus sexuels ont été une réalité. Ont été beaucoup plus fréquents qu'on ne l'a dit, même si ça doit ébranler le statut social. Or aujourd'hui, nous savons, après les scandales qu'il y a eu dans l'Église, après les scandales qu'il y a dans le monde du sport, dans le monde du cinéma, etc., à des degrés divers, même si on ne peut pas amalgamer évidemment strictement les affaires d'abus sexuels dont sont victimes des enfants, parfois par centaines, dans certains pensionnats, certaines institutions, et l'affaire MeToo, ce n'est pas exactement la même chose. Mais enfin, il y a eu une prise de conscience extrêmement forte, encore ravivée récemment par le beau livre de Vanessa Springora sur sa relation comme adolescente avec Gabriel Matzneff, il y a aujourd'hui une prise de conscience de l'importance de ce phénomène. Et là, on voit que ce qui a choqué dans la communauté psychanalytique et ce qui a précipité la brouille en 1932, cette brouille sur laquelle j'ouvre mon livre, la brouille entre Freud et Ferenczi, se fait autour de cette question. C'est-à-dire que on dit Ferenczi déraille, Ferenczi délire, Ferenczi croit tout ce que lui disent ses patients. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui, et beaucoup d'analystes en conviennent et disent non. Non seulement il faut écouter, mais il faut aussi se soucier du degré de réalité qu'il peut y avoir. Et là, il y a quelque chose de très important, avec un concept magnifique et très fort, je crois, facile à faire comprendre chez Ferenczi, qui est celui de la confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Cette confusion de langue, c'est que l'enfant peut avoir, par rapport à l'adulte, des attitudes séductrices, des attitudes enjôleuses, des attitudes ambiguës. Simplement, il s'agit pour l'enfant d'une demande affective, d'une demande de tendresse, et la réponse brutalement sexuelle, la réponse génitale apportée par l'adulte, laisse l'enfant totalement désemparé. Ce n'était pas cela qu'il cherchait. Et donc, c'est un très très beau texte et un très très beau concept qui a été longtemps interdit dans la communauté analytique. On ne voulait pas que Ferenczi prononce cette conférence, on ne voulait pas que cet article soit publié, on ne voulait pas, et notamment Ernest Jones, qu'il soit traduit en anglais. Or, aujourd'hui, c'est, avec le journal clinique que Ferenczi a tenu à la fin de sa vie, un des textes les plus forts de Ferenczi, et certainement un de ceux qu'on peut relire avec le plus de profit, qu'on soit d'ailleurs freudien ou non freudien, hein, c'est vraiment quelque chose qui a vertu d'éclairer tout un chacun et d'être extrêmement lisible.
Et de façon générale, Benoît Bitter, c'est la critique que Freud et ses condisciples adressent à Ferenczi à la fin de leur relation, en quelque sorte. C'est une critique qui porte en général sur la cure, sa façon de mener la cure. C'est cet investissement total.
Alors, il avait affaire très souvent à des cas graves, des cas que d'autres analystes ne voulaient pas prendre et parfois même que Freud lui envoyait. Donc, c'est un cas pour vous. Ces cas, il s'y consacrait, on pourrait dire, corps et âme. Il est allé, par exemple, jusqu'à pratiquer, mais parfois il lançait quelque chose et puis il revenait dessus. Il était extrêmement autocritique. Il allait jusqu'à pratiquer l'analyse mutuelle, c'est-à-dire pour, au fond, aller au bout du transfert et du contre-transfert, inverser les rôles. Et à dire à la patiente, eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais être en situation analytique. Par exemple, un jour, eh bien, une patiente lui disait, vous êtes très bienveillant, vous êtes très gentil, vous faites tout pour moi. Mais dans le fond, vous avez une antipathie à mon égard. Et dans cette situation d'analyse mutuelle, c'est venu au jour, et ça a permis de débloquer la cure, c'est-à-dire que l'acceptation de la fragilité de l'analyste a joué un rôle déclencheur et a permis de faire vraiment avancer une analyse difficile. Il y avait donc chez Ferenczi une capacité autocritique, une envie de ne pas figer l'analyse, par exemple, dans les interprétations prématurées. Il détestait qu'on se précipite sur une interprétation. Il détestait qu'on fige la technique. Il utilise l'idée d'élasticité de la technique psychanalytique, c'est-à-dire qu'on est en permanence, au fond, dans une révision des attitudes et des concepts, une révision des positions face à chaque cas et face à une autre chose essentielle chez Ferenczi, c'est de dire l'analyse didactique, c'est-à-dire l'analyse subie par l'analyste, est souvent expéditive et superficielle et ne va pas au fond. Il faudrait que tous les 5 ans, et Freud va reprendre cette idée dans un texte tardif, il faudrait que tous les 5 ans, l'analyste se livre à nouveau à un autre analyste pour se remettre au jour. Et ce sont des idées lumineuses au fond, et dont on s'étonne quelquefois qu'elles aient pu choquer, qu'elles aient pu apparaître comme des délires. Et la chose qui est frappante, c'est qu'il a fallu un énorme travail après la mort de Ferenczi pour le réhabiliter. Je raconte tout ce qui suit la mort, toute cette étape, ceux qui veulent l'enfouir, comme Ernest Jones dans sa biographie de Freud, et celles et ceux, Michael Balint, puis Judith Dupont, le groupe du Coq Héron en France, la France a joué un rôle très important, qui vont retrouver les textes, les traduire, les éditer, et grâce à ce travail fait notamment en France, Ferenczi va retrouver sa place. La correspondance Freud-Ferenczi, ça a été un combat énorme de la publier. Anna Freud sentait bien que cette correspondance,
Anna Freud, la fille de Freud,
qui était un peu la gardienne du temple, sentait bien qu'il y avait dans cette correspondance des choses qui peut-être n'étaient pas tout à fait à l'avantage de Freud, en tout cas du Freud statut, je dirais. Moi, je pense qu'elles ne sont pas du tout, mon livre n'est pas du tout anti-freudien d'ailleurs, mais il montre que Freud n'est pas infaillible. Il lui est arrivé d'errer, de se tromper. Et donc, il a fallu un temps énorme pour que ce cœur de l'œuvre ferenczien, qui date surtout des dernières années de sa vie, soit accessible.
Benoît Peters, il faut s'arrêter sur l'œuvre, enfin sur le livre, qui est le livre de Sandor Ferenczi, Thalassa.
Ah oui, alors Thalassa,
le sous-titre c'est « Essai sur la théorie de la génitalité ».
Alors, Thalassa est une entreprise audacieuse, fondée sur la passion de Ferenczi pour les sciences naturelles, pour les théories de l'évolution, celle de Jean-Baptiste Lamarck, oui. Puis celle de Darwin, mais il était encore plus proche de Lamarck, et notamment ce moment de l'assèchement partiel des océans où un certain nombre d'êtres vivants dans le milieu aquatique, dans le milieu marin, doivent s'y arracher et s'adapter à la vie terrestre. Cette vision de Ferenczi relie à la fois, au fond, l'histoire du devenir humain et la trajectoire individuelle de chaque petit humain. Il voit dans l'arrachement du nouveau-né au milieu liquide dans lequel il s'est développé, il voit, comme une reprise en raccourci de cette évolution des espèces. Et il y aurait, chez l'être humain, une sorte de nostalgie permanente de ce milieu aquatique dont la sexualité humaine, son désir de fusion, serait au fond l'écho. Et donc, c'est quelque chose qui va accentuer le rôle de la mère par rapport au père et accentuer aussi le rapport à la mère au sentiment océanique, je dirais, qui est très très présent chez Ferenczi. On pourrait dire de ce point de vue-là qu'il y a chez Freud une analyse marquée du côté du père, c'est-à-dire que Freud remet de la loi, et c'est extrêmement important pour lui face à un paysage mental ou individuel chaotique, de remettre de la loi, d'affirmer ce qu'il appellera à une époque le surmoi. Et chez Ferenczi, il s'agit avant tout de remettre de l'amour, de remettre de la confiance. C'est assez différent, parce que dans un cas, on a une volonté correctrice, je dirais, alors que dans l'autre cas, on a une volonté réparatrice. Bon, je dis tout cela peut-être avec un peu d'imprudence, parce que je ne suis ni psychanalyste, même si j'ai beaucoup d'amitié pour la psychanalyse, et si je l'ai rencontré, ni théoricien, historien de la psychanalyse. Je suis avant tout quelqu'un qui a été passionné par la trajectoire de Ferenczi. Mais comprendre Ferenczi, c'est aussi comprendre un peu ses théories, même si je dois rester prudent, et les psychanalystes, parfois peut-être diront, Benoît Peters va un peu vite, résume un peu cavalièrement la chose, certains textes restent controversés, et je crois qu'il faut garder. Par exemple, Thalassa est un texte qui est à la fois très beau, très poétique, et en même temps un peu vieilli dans ses références scientifiques, et qu'il faut pas prendre à la lettre, mais qu'il faut prendre comme le propre d'un esprit intuitif, imaginatif, sensible à des résonances qui vont bien au-delà de la technique.
À la lecture de votre livre, qui est un très beau livre d'ailleurs, et sur le fond et sur la forme, avec beaucoup d'illustrations, Benoît Peters, moi qui ne suis pas non plus spécialiste de la question, loin de là, à la lecture de ce livre, Ferenczi me paraît infiniment plus sympathique que Freud. Hein.
Alors sur le plan de la sympathie, oui, Ferenczi est un personnage attachant parce qu'il assume ses fragilités, parce qu'il se remet en cause en permanence, parce qu'il a la passion du soin, hein, ce que Freud a appelé à un moment, usant une formule latine, la furor sanandi, la fureur de guérir. Mais il faut bien dire aussi, on employait tout à l'heure l'idée de l'invivable, que cette exigence que Ferenczi a eue par rapport à sa vie, par rapport à son métier, a sans doute hâté sa fin. Qu'il y a chez lui quelque chose de jusqu'au boutiste, qui est très émouvant, qui est très fort, qui fait que je pense que le livre porte aussi cette dimension émotionnelle, mais c'est pas un modèle facile à suivre. Voilà, il y a chez lui l'idéal du médecin, l'idéal du soignant, cette empathie, y compris avec des patients difficiles qui parfois le rejettent. Donc, ce qui fait sa trajectoire très belle fait qu'il ne peut pas non plus être considéré comme un modèle, mais comme une utopie de l'analyste peut-être.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Vous avez parlé tout à l'heure des abus sexuels sur les enfants, et il s'y est donc intéressé, il a essayé de comprendre. Qu'est-ce qui fait en quelque sorte aujourd'hui l'actualité de Ferenczi dans un monde de la psychanalyse qui est en crise et qui est fort critiqué, hein ?
Tout à fait. Lourdes Salomé, qui était admirée par Freud et qui est devenue une amie de Ferenczi, disait « le temps de Ferenczi doit venir ». Et je crois que ce temps est venu parce que la psychanalyse peut être un peu fragilisée dans ses bases, dans un théoricisme que Lacan en France a encouragé, avec son génie, mais en même temps avec peut-être les duretés introduites par certains de ses
Lacan
disciples.
Lacan qui s'est intéressé à Ferenczi.
Qui s'est intéressé à Ferenczi, parmi les premiers. La psychanalyse est peut-être revenue de sa superbe et se recentre aujourd'hui moins sur des débats théorico-linguistiques ou théorico-mathématiques, se recentre sur la volonté de soin, peut-être sur la complémentarité du soin thérapeutique général, y compris dans les aspects médicamenteux, chimiques, et d'une proximité, parce qu'on est quelquefois un petit peu passé d'un extrême à l'autre, hein, à une époque où seule la psychanalyse pouvait régler le problème des difficultés psychiques, à un moment où on entre dans les classifications, les catégorisations et la réponse strictement chimique, où la parole, l'histoire du sujet n'a plus de place. Je crois que là, il y a place pour une nouvelle approche thérapeutique, une nouvelle approche clinique qui soit ouverte. Et il y a d'autres analystes qui ont prolongé cette voie. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est évidemment de revenir sur les grands textes théoriques, ce magnifique texte qui s'appelle le journal clinique, qui est le journal que Ferenczi a tenu pendant la dernière année de sa vie, où il revient sur sa relation avec Freud, il revient sur l'attitude thérapeutique. C'est un texte fragmentaire, peut-être difficile à lire pour le profane, mais extrêmement touchant et fort. Et là, je crois que pour tous ceux qui s'intéressent à ces choses-là, il y a matière à se nourrir intellectuellement et à comprendre, oui, que cette question de l'enfant abusé est une question centrale, qu'elle n'est pas une question anecdotique. Est-ce que ce que Ferenczi a créé là-dessus, notamment à travers le concept de la confusion de langue entre les adultes et l'enfant, ça reste vraiment à méditer et que ces affaires ne peuvent pas être expédiées. Ferenczi disait d'ailleurs que le traumatisme, il vient de deux choses, de ce qui a été vécu, mais du refus d'être entendu. Et ça, nous le savons aujourd'hui, à quel point si le parent n'entend pas, ou l'adulte de référence n'entend pas. Et si ensuite, dans un deuxième temps, le thérapeute, ou l'analyste, ou le policier, ou le juge, ne veut pas entendre la réalité d'un abus, l'abus devient incurable. Ce n'est pas simplement les faits qui le rendent incurable, c'est le refus d'être entendu, c'est-à-dire le fait de dire à l'enfant, d'une certaine façon, ta parole n'est pas crédible, tu te trompes, tu inventes, tu es mythomane.
Et pour celles et ceux qui s'intéressent à ces questions, il faut lire évidemment la correspondance.
La correspondance est énorme, elle est parfois labyrinthique, et c'est pour ça que j'ai essayé d'en donner, à travers Sandor Ferenczi, l'enfant terrible, la psychanalyse, une synthèse. Les meilleurs moments, parce qu'il y a aussi beaucoup de considérations sur des horaires de voyage, sur des détails de l'institution analytique qui peut-être n'intéresseront pas le... Voilà.
En tout cas, il faut lire effectivement votre livre, Benoît Peeters, Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse, livre publié chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Vous pouvez télécharger ce magazine sur le site de la radio, www.rfi.fr, votre plateforme de recherche préférée pour l'écouter ou le réécouter quand vous le souhaitez. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.